Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui m'a beaucoup plu et surtout qui m'a beaucoup marqué, qui se nomme « Elle s'appelait Sarah », écrit par Tatiana de Rosnay en 2007. Dans ce roman, deux histoires se déroulent en parallèle. Celle de Julia, une Américaine qui vit à Paris en 2002 avec son mari Bertrand et sa fille Zoé, et puis celle de Sarah, déportée avec son père et sa mère en 1942 lors de la rafle du Veldiv. Les deux récits vont finir par se rejoindre malgré les 60 années qui les séparent. Donc le roman va prendre la forme d'une double narration. Nous allons suivre à la troisième personne et en italique Sarah Straczynski, une enfant polonaise âgée de 10 ans au moment des faits. Et c'est une fille à la fois forte et déterminée car elle réussit à s'enfuir du camp de Bonnaroland pour aller sauver son frère enfermé dans le placard en lui promettant de revenir. Et puis, à la première personne, nous suivons Julia, une journaliste chargée de rédiger un article à l'occasion du 60e anniversaire de la rafle du Veldiv. C'est comme ça qu'on arrive à suivre un petit peu l'enquête et à se mettre dans la peau du personnage. Donc l'autrice franco-britannique, avant d'écrire sur la Shoah, se renseigne et est touchée par ce qu'elle découvre. En effet, elle est allée à Drancy et puis à Bonnaroland. Mais elle a surtout été frappée par la tristesse de la rue Nélaton, qui abritait autrefois les vestiges du vélodrome d'hiver avant qu'il ne soit détruit, et qui et par la petite plaque de commémoration que l'on cherche longtemps et qui est remplacée aussi par une annexe du ministère de l'Intérieur. Donc l'autrice est d'autant plus choquée en apprenant que la majorité des Français ne connaissent pas la rafle du Veldiv, alors que c'est un épisode marquant des Juifs français de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un stade parisien qui a détenu du 16 au 17 juillet 1942 8160 Juifs dans des conditions précaires par la police française du gouvernement de Vichy, donc qui montre encore une fois la collaboration de l'État français à la barbarie nazie. Donc dans son roman, l'enquêtrice Julia, qui se reflète un petit peu dans le personnage de Tatiana, est confrontée à une société française qui semble préférer oublier ces heures sombres du passé. Pour rappel, cependant, le 16 juillet 1995, le président Jacques Chirac prononçait devant le monument commémoratif du Vélodrome d'hiver un discours dont tous les historiens ont souligné la portée historique. Pour la première fois, un président de la République reconnaissait la responsabilité de l'État français dans la rafle du Veldiv et plus généralement dans la Shoah. Et d'ailleurs, pour évoquer la Shoah, Tatiana de Rosnay prend le parti de la fiction. Donc dans son roman, elle préfère le mentir vrai, d'où vient l'expression de Aragon, qui permet de produire une vérité plus riche et plus parlante que la simple reproduction des faits. Donc c'est en effet un roman fictif avec des personnages imaginaires, mais évidemment pas celui de l'Holocauste. Donc dans son livre, elle rend d'ailleurs hommage aux victimes. Je cite « Ce livre n'est pas un travail d'historien et ne prétend pas l'être. C'est mon hommage aux enfants du Veldiv que l'on ne revit jamais. » Tatiana de Rosnay va écrire dans sa langue natale, qui est l'anglais, et donc le titre va donner Sarahski, qui veut dire les clés de Sarah. Donc on sent vraiment que l'intrigue tourne autour du corps du petit frère de Sarah, donc ce cadavre dans le placard, qui peut constituer une métaphore du rapport des Français à leur passé récent, donc cette envie d'oublier les heures sombres du passé. Le titre à la française, donc elle s'appelait Sarah, est peut-être vu comme une inspiration de la chanson de Jean-Jacques Goldman qui s'intitule « Comme toi » et dont lui aussi parle de l'Holocauste. Donc le récit passe aussi en revue toutes les attitudes possibles que les Français peuvent avoir par rapport à leur passé. Nous avons dans un premier temps un personnage qui a une volonté de savoir et de faire savoir. Donc ici peut-être représenté par Julia, la journaliste. Nous avons un deuxième personnage qui est d'une indifférence sans nom et qui accorde aucun intérêt et ni importance au sujet qu'on lui accorde, qui est le mari, que l'on peut voir comme le mari de Julia, qui est Bertrand. Et puis un troisième personnage que beaucoup de Français, je pense, semblent se reconnaître dedans, qui est le refoulement du passé. Donc on peut voir ici dans ce livre les Tézac ou encore le William, le fils de Sarah. C'est donc à la fois un roman beau auquel on s'accroche et qui ne nous lâche pas, qui nous fait prendre conscience et en qui on peut se reconnaître dans chaque personnage. Le roman a tellement marqué, a tellement touché, il a fait éveiller les esprits, qu'il a reçu des prix Goncourt, des prix Chronos, des prix de lecteurs de livres de poche. Voilà, ce sont ces qualités qui ont donné au réalisateur Gilles Paquet-Brenner l'envie de l'adapter au cinéma. Donc à travers une intrigue particulièrement bien construite, il a évoqué cette période de l'histoire de manière riche et nuancée, tout en portant un point de vue sur notre époque, comme l'a fait le livre. Et d'ailleurs, le scénario est très fidèle au livre, donc il respecte la structure et l'ampleur narrative. Le film parvient également à trouver la bonne distance, à la bonne distance. Il sait se faire elliptique, donc par exemple, il ne va pas montrer le petit corps immobile et recroquevillé du petit frère de Sarah. Il évite aussi tout pathos pour décrire l'horreur du Veldiv. Cependant, il n'y fait pas simplement allusion ou évocation. Il choisit de raconter frontalement le destin des personnages pris dans la rafle du Veldiv. Mais il échappe d'un côté aussi aux écueils de la reconstitution. Il cite d'ailleurs: J'ai rencontré des survivants du Veldiv et tous m'ont parlé de la chaleur étouffante, de sons, d'odeurs, de fourmillements permanents. Plutôt que de jouer la représentation pure et simple, leurs témoignages m'ont conforté dans l'idée de rendre ces sensations de manière presque impressionniste. J'ai ainsi banni tout plan d'ensemble, sauf ceux du Veldiv vus à travers le regard de Sarah. Donc c'est à travers ce beau témoignage qu'on se rend compte qu'il n'est pas toujours facile de représenter la Shoah de manière juste, de manière simple et de manière vraie. Dans le roman, la responsabilité et la culpabilité sont deux sujets importants. Qui est responsable de ce qui s'est passé et qui se sent responsable ou même plutôt coupable? Donc la culpabilité exprimée dans Elle s'appelait Sarah est d'abord celle du personnage même de Sarah, qui ne se remettra jamais d'avoir laissé mourir son petit frère. Son personnage rappelle la difficulté d'ailleurs qu'ont eu de nombreux rescapés des camps de la mort à assumer d'avoir survécu. On peut rappeler par exemple le suicide de l'écrivain Primo Levi. Sarah, elle d'ailleurs, finit par se suicider à l'âge de 40 ans, 40 ans, accablée par le poids des souvenirs et de la culpabilité qui la ronge. On sait par ailleurs qu'une des dimensions essentielles de l'expérience concentrationnaire est l'anonymat, la dépossession de l'individualité. C'est alors tout le sens du travail d'historien ou même d'institution comme le Mémorial de la Shoah, qu'a d'ailleurs visité Julia, qui est de rendre un nom et une identité à toutes les victimes de la barbarie nazie. Sur le plan de la fiction, Elle s'appelait Sarah, accomplit le même geste, en hommage non pas à une victime en particulier, mais à tous les enfants déportés. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup de m'avoir écouté, en espérant que vous aurez un jour l'occasion de lire ce roman avec du temps, de l'attention et surtout de l'émotion.